Merci d'avoir organisé cette conférence qui nous permet bah, de, j'allais dire, d'avoir une réflexion interreligieuse sur ce sujet. Et moi, je me placerai sur un plan, j'allais dire, sur un plan très très pratique. Quel type d'action, quel type de piste est-ce que nous pouvons préconiser dans la période actuelle? Alors, je vais m'appuyer principalement, même exclusivement, sur ce manifeste, manifeste de financiers chrétiens atterrés. Nous sommes en fait quatre signataires plus un qui, pour des raisons professionnelles, ne pouvait pas, vis-à-vis de la grande banque dans laquelle il est, prendre, et qui à l'époque était extrêmement chahutée, ne pouvait pas prendre de parole. Alors aujourd'hui, Stanislas Ordodi et Patrice Dufour sont là et donc ils pourront largement compléter ce que je vais dire. Je tiens d'ailleurs à remercier Lacroix de nous avoir accueillis et je remercie son rédacteur en chef, François Ehrenweil, qui est discrètement au fond de la salle, de nous avoir accueillis dans ces colonnes. Alors, premier point, pourquoi atterrer et non pas indigner comme il est, j'allais dire, un peu de mode? Parce que, en réalité, même si nous ne sommes pas des, j'allais dire, des spécialistes académiques des questions de finances, même si nous ne sommes pas au levier de grandes banques ou de grandes institutions, ce qui nous a paru très, très étonnant, c'est que nous n'étions pas indignés, c'est-à-dire nous n'étions pas surpris, nous étions atterrés parce que nous savions ce qui allait se passer depuis un certain temps. Et nous étions, et nous sommes d'ailleurs toujours, médusés par l'évolution de la crise financière et par le blocage, la situation de blocage dans laquelle semble, se trouver à la fois l'économie, mais aussi, les pouvoirs politiques. Et comme tu le rappelais, je fais une petite page de publicité. Par exemple, moi j'ai fait travailler une équipe d'universitaires sur la question des agences de notation entre 2005 et 2007. Quand on a publié ce rapport, qui était pourtant un rapport, j'allais dire, quasi officiel, à la documentation française en septembre 2007 et qu'on l'a envoyé à toute la place, finalement il n'a intéressé personne. Alors que la question de la, comment dire, du fonctionnement ou du dysfonctionnement des agences de notation était, d'ailleurs, en tant qu'observateur de la question, moi j'ai été très surpris de voir que tout le monde était tout à fait au courant et que le jugement qu'on a porté était partagé quasiment par tout le monde. Alors,
Je crois que le titre est intéressant en lui-même, d'ailleurs.
agences de notation, immobilier et contrats publics, quelques contributions sur l'attractivité économique du droit. Bon, la question les différents articles, d'ailleurs, ont été malheureusement reliés par la conjoncture qui a suivi juste la publication de ce papier, de cet article, enfin de ce rapport. Alors, pourquoi est-ce que nous avons décidé de prendre la plume et de poser cet acte qui est, j'allais dire, à la fois modeste, mais en même temps public? C'est parce que nous avons considéré qu'il y avait à la fois urgence dans la situation économique et financière et en même temps blocage. Et il nous a paru important de poser un discours chrétien, de faire référence à nos valeurs religieuses, à nos valeurs spirituelles. Parce que la crise dans laquelle nous sommes depuis l'automne 2007 nous paraît être une double crise de valeurs. Premier point, cette crise financière a montré, j'allais dire même pas la limite, mais j'allais dire l'inanité d'un dogme économique qui a été érigé en valeur, à savoir l'ajustement automatique des marchés. C'est devenu d'abord une réalité ou une démonstration scientifique qui est devenue une valeur en elle-même, valeur positive, les marchés s'ajustent automatiquement, etc. Et pour avoir travaillé, critiqué d'ailleurs, un certain nombre d'économistes qui véhiculaient cette affirmation apparemment scientifique, il est très étonnant, très intéressant de voir cette affirmation a été considérée à la fois comme une valeur scientifique, un dogme et peut-être même l'objet d'une certaine idolâtrie. C'est intéressant d'étudier, j'allais dire, le discours qui s'est développé depuis une dizaine d'années autour de cette notion, sous un angle, j'allais dire, spirituel et de critique des idoles. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que dans le discours de certains de ces théoriciens, il y avait une volonté donc d'affirmer cette valeur à l'encontre, ce que moi, en tant que chrétien, je considère comme un certain nombre de valeurs d'ordre spirituel, mais aussi de valeurs inspirées de la philosophie des Lumières. C'est pour ça, d'ailleurs, que je trouve intéressant que Marc ait voulu rassembler non seulement des dimensions spirituelles, mais aussi des dimensions, j'allais dire, d'éthique laïque. Alors, deuxième point, en effet, sur cette question de cette double crise de valeur, le blocage de la situation, le blocage dans lequel semblent être les différents acteurs ou les différents décideurs dans la période actuelle, renvoie à une demande, je pense, de valeurs supérieures, de valeurs transcendantes. Valeurs transcendantes à deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est... Premier phénomène ou première piste de sortie, type de solution, c'est finalement de réformer à la marge, de façon limitée, le système actuel. Et on voit bien d'ailleurs à la fois la difficulté depuis maintenant 5 ans, hein, octobre, enfin un peu moins de 5 ans, le premier élément de la crise financière date de l'été 2007. Et on voit bien la difficulté des réformateurs, des décideurs publics, à prendre des réformes qui soient à la fois profondes et rapides. Deuxième point aussi, c'est que face à ces réformateurs qui, j'allais dire, patinent, qui ont des difficultés à réformer à la marge le système actuel, eh bien, il y a une tentation de dérive, j'allais dire, extrémiste, de trouver des boucs émissaires. Et donc, il y a, je pense, une place pour un discours de sortie de crise. Enfin, il y a non seulement une place, mais il y a une demande pour un discours de sortie de crise qui se réfère à des valeurs qui soient transcendantes. Ceci a justifié notre prise de position, notre prise de parole en tant que chrétien. Car il faut un langage positif, et puis, j'allais dire, le renvoi à des valeurs nous permet ou nous facilite ou justifie plus facilement le recours à l'expérimentation. Ce qui est très frappant de voir dans le débat que moi j'ai techniquement avec un certain nombre de décideurs, c'est que quand on propose une solution qui sort justement du champ et d'ailleurs la question de la finance islamique y renvoie, quand on sort du champ du paradigme actuel, on dit « Oh, cher ami, vous n'y pensez pas, etc. Ça ne marchera pas, ça ne se fait pas. » Donc il y a une, je pense, un besoin, un appel à une logique d'expérimentation et une logique de solution positive. Alors, dans notre manifeste, on a proposé trois types de solutions, deux niveaux très différents, très macroéconomiques ou au contraire très techniques, microéconomiques. Je voudrais insister sur certaines d'entre elles. La première, qui renvoie à la fois l'enseignement des évangiles et de la Bible et à la doctrine sociale, à la pensée sociale chrétienne, c'est la mise en place de financements qui ne s'appuient pas sur l'intérêt, sur le taux d'intérêt. Et donc, Stanislas, qui est vraiment le spécialiste intercontinental de la question qui est là, je lui laisserai, enfin, je pense, pourra répondre à vos questions, c'est l'idée de développer le principe, qui est très proche d'ailleurs du principe de la finance islamique, le principe du 4P, c'est-à-dire le principe du partage des profits et pertes, qui est un mode de financement sans intérêt, qui associe en partenariat l'apporteur de capitaux et l'entrepreneur, qui donc fait partager les risques, mais fait partager aussi les profits, et qui nécessite, pour être mise en œuvre en France, des réformes très concrètes, des réformes fiscales, des réformes du droit des sociétés, etc. Avoir suivi certains des actions de Stanislas auprès des pouvoirs publics, de militants pour la mise en œuvre de ce type de financement, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a de très, très grandes réticences parce que ce n'est pas dans le paradigme actuel. Or, il y a une dimension, j'allais dire, de partage qui, pour nous chrétiens, évidemment, est extrêmement importante. Deuxième type de proposition, limiter la place de la finance de marché. C'est abyssal de voir que des États comme par exemple la République française sont endettés à hauteur de plus de 70% auprès des marchés financiers et donc sont par exemple prisonniers de l'opinion que trois agences de notation qui n'ont pas de responsabilité politique, qui n'ont pas de légitimité, dont les méthodes sont sujettes à caution, eh bien de voir que la dette française, que la dette espagnole, la dette italienne est enserrée dans ce type de problématique.
Tu veux dire les 30% restants sont...
Les 30% restants, c'est des financements qui sont auprès des ménages, enfin des particuliers, industrie ou ménage. Et donc l'idée de financer les puissances publiques et notamment l'Union européenne par des emprunts, ça fait un peu rétro, des grands emprunts populaires auprès des ménages pour qu'il y ait aussi une double relation entre la puissance publique et la population, une relation dans lequel la population participe aux charges communes par l'impôt, et d'autre part, dans lequel l'État est redevable aussi vis-à-vis de la population de ses propres ressources sous forme d'emprunt. Bon, on propose aussi, mais c'est-à-dire le débat là est beaucoup plus connu, une taxe sur les transactions financières, de façon à limiter, l'ampleur des placements à titre purement spéculatif. Et cette question de limiter la place de la finance de marché renvoie finalement à l'idée de créer une sorte de démocratie financière, ou en tout cas d'étendre le débat démocratique au financement de l'économie et de l'État.
L'Italie l'a fait, c'est ça ?
L'Italie l'a fait, le Japon par exemple, l'État japonais est endetté, alors c'est exactement l'inverse de la situation française, est endetté à hauteur de 70% sur les ménages. Et puis pour être là une dimension beaucoup plus large, il nous semble qu'il faut explorer toutes les pistes pour développer ce que, notamment dans sa dernière encyclique Caritas in Veritate, le pape Benoît XVI, développe, c'est-à-dire, pour faire bref, une sorte d'économie de la gratuité, développer à la fois l'analyse théorique, l'analyse aussi, enfin l'observation pratique, mais aussi le débat sur la possibilité de mettre en place des mécanismes productifs qui s'appuient sur des échanges et sur des échanges et sur le don et sur la gratuité. Voilà. Mais je ne suis pas théologien, je ne suis pas spécialiste de la pensée sociale chrétienne, c'est pour ça qu'heureusement que Giraud est à côté.
Merci. Merci à toi. Donc tu fais la transition avec Gaël Giraud, que je vous présente également très brièvement. Elle est jésuite, mais pas encore ordonnée, mais bientôt,
c'est ça ? L'année prochaine.
Normalement.
Si tu veux.
Tu es membre de l'école d'économie de Paris, docteur en mathématiques, ancien élève de normale supérieure Ulm, et tu es co-auteur avec une douzaine d'auteurs, donc de 20 propositions pour réformer le capitalisme, crois que c'est la troisième édition. Là. Tu as été aussi l'auteur d'une conférence de carême à Notre-Dame de Paris. Donc merci après d'être venu à Notre-Dame de Paris de venir chez nous à la boutique.
C'est ton carême de la boutique.